et écrivaine de la Nation Innu. Elle vient nous parler aujourd'hui du livre « 21 aspects méconnus de la loi sur les Indiens ». Natacha Canapé-Fontaine, bonjour, comment ça va ce matin?
Bonjour, ça va bien
et
toi?
Ça va bien, merci vraiment beaucoup d'être là. Tu as signé là, à la fois la préface et la traduction de l'ouvrage « 21 aspects méconnus de la loi sur les Indiens », un livre qui arrive là, dans un contexte de réflexion sur les 150 ans de cette loi. Pour bien le situer, les auditeurs, explique-moi là, comment ce livre permet de comprendre concrètement sur le rôle, qu'est-ce que ça permet de comprendre concrètement sur le rôle et les effets de cette loi depuis sa création là, en 1876.
D'abord, déjà merci de me recevoir à cette radio. Puis, pour commencer, en fait, souvent, ces derniers temps, ces dernières années, dans la dernière décennie, on a beaucoup entendu parler de la réconciliation. Puis on est beaucoup dans des débats, des conversations à ce propos. On parle donc de réconciliation avec les peuples autochtones, les premiers peuples, ici ou partout ailleurs au Canada. Mais des fois, on oublie d'inclure, en fait, je ne sais pas comment dire, une façon d'approfondir nos connaissances sur la loi sur les Indiens. Puis je dirais même que de notre côté, en tant qu'Autochtones, si on se dit, on pense qu'on connaît bien la loi parce qu'elle fait partie de nos vies, malheureusement. Mais en même temps, quand j'ai pu réaliser la traduction du livre, je l'avais déjà feuilleté, ce livre-là, par le passé, à différents moments, à différents endroits dans le livre aussi. Puis en même temps, je me suis rendu compte, mais il faut vraiment comme le lire du début à la fin pour vraiment comprendre encore mieux comment la loi sur les Indiens a été créée, pourquoi, donc déjà pour tenter de contrôler un peu les faits et gestes des peuples autochtones à une certaine époque, mais jusqu'à aujourd'hui, puisque la loi existe encore, elle est encore en vigueur, mais on comprend aussi toute l'histoire et finalement, tu sais, on comprend beaucoup mieux les enjeux et les réalités concernant les Premières Nations en général.
Dans l'ouvrage, là, plusieurs réalités historiques et contemporaines sont mises en lumière, notamment là, des mesures qui ont encadré là, certains aspects de la vie des peuples autochtones. Comment ces exemples permettent de mieux comprendre là, l'impact réel et durable de la loi dans le quotidien là, d'aujourd'hui?
Une des notions clés, par exemple, de la loi sur les Indiens qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, c'est le système des pensionnats. On en a beaucoup entendu parler, surtout par exemple avec la venue du pape ici au Québec et ailleurs au Canada pour venir présenter les excuses de l'Église catholique, entre autres. Mais ça, c'est qu'un petit exemple dans l'ampleur, en fait, de comment le système des pensionnats qui a duré presque 70 ans, en fait, tout comme par exemple l'interdiction de la pratique religieuse traditionnelle et des cérémonies et aussi des danses traditionnelles pendant au moins 70 ans, ces impacts-là se font encore sentir dans la vie de tous les jours, dans le quotidien des Premières Nations. On se rappelle que, par exemple, le dernier pensionnat a fermé en 1996, donc on a l'impression que les pensionnats, ça fait peut-être très longtemps, vu quand on parle de la loi sur les Indiens, puis qu'on dit, ben, elle a été créée en 1876, donc peut-être que ça fait partie du passé. Malheureusement, non. Dans les conséquences des pensionnats, il y a les traumatismes intergénérationnels, puisque notamment les survivants des pensionnats, comme on les appelle, ont vécu toutes sortes de sévices psychologiques, verbaux, psychologiques, même sexuels. Donc, ces impacts-là se sont répercutés sur les générations par la suite. Et par exemple, la création des réserves qui a été déjà faite dès les débuts de l'adoption de la loi, et même bien avant, c'était une façon aussi d'empêcher les peuples autochtones de circuler sur leur territoire ancestral pour mieux aller exploiter les ressources naturelles. Donc, on imagine, donc on empêche les gens de circuler là où ils vont d'habitude. On les empêche aussi de sortir des réserves. Un exemple assez récent dans notre histoire, c'est un peu quand on pense à la pandémie, quand il fallait une certaine façon ou un papier pour sortir. C'est très récent dans notre tête, mais on imagine que quand il y a eu la création des réserves, bien, il y a eu un certain moment, peut-être au moins une décennie, si je me rappelle bien, ou peut-être totalement je me trompe, mais il fallait un papier signé par un dit agent des Indiens qui contrôlait les allées et venues des Autochtones sur leur propre communauté, dans leur propre village. Donc, on imagine les répercussions, je dirais, j'ose dire, phénoménales dans la vie des gens. Moi-même, bon, je le partage un peu dans la préface aussi parce que c'est important. Je pense même dans un principe traditionnel autochtone d'oralité, partager son expérience personnelle, c'est une façon de créditer les faits. qui se sont passées dans ma vie de tous les jours. Je dois vivre avec les conséquences de d'avoir eu des je sais pas comment dire. Les survivants n'ont pas pu être des enfants avec des parents. Ils n'ont pas connu vraiment leurs parents. Ils ont été séparés de leurs parents. Donc, on imagine quand ils ont eu leurs enfants, ils pouvaient pas, ils savaient pas être des parents et ainsi de suite. Donc, j'ai vu ça dans ma vie. C'est énormément de travail à faire pour pardonner. Puis quand on comprend finalement que le système des pensionnats a agi d'une telle manière, on se dit, mais c'est pas de la faute de personne finalement. Si on a mal, si on vit avec une certaine... Je sais pas comment dire. Des fois, on a honte d'être autochtone, on est gêné, on a peur, même de notre, on a peur de notre propre culture. C'est des répercussions très fortes. Et par exemple, juste en tant qu'écrivaine, moi, mon travail, c'est de décrire à ce sujet. Mais aussi, la traduction s'ajoute un peu en me disant, mais j'ai envie de contribuer à rendre des œuvres comme celle de Bob Joseph, l'intégration méconnue de la loi sur les Indiens, disponible dans la langue dans laquelle on lit. Voilà.
Justement, dans cette traduction-là, là, quels étaient les principaux défis là, pour conserver justement la précision des informations tout en rendant le contenu accessible au public là, francophone?
Mais tu dis bien en plus parce que c'est ce que je trouvais très bien en fait avec le livre, c'est que tu sais, des fois avec le titre, on pourrait avoir l'impression que c'est peut-être un essai académique ou quelque chose de assez complexe à lire et à comprendre avec des, tu sais, avec des mots qu'on n'utilise pas vraiment tous les jours. Puis finalement, Bob Joseph, donc qui est lui-même donc autochtone d'une nation de l'Ouest, donc j'avoue que j'ai du mal à prononcer, donc j'ose pas m'aventurer là. Mais parmi une des nations de la Colombie-Britannique, il est issu d'un peuple qui a quand même réussi à sauvegarder sa culture, donc aussi des principes assez traditionnels, les protocoles politiques traditionnels. Donc lui, quand il écrit, quand il parle, dans la vie, son métier, c'est d'être formateur en relation entre les peuples autochtones et les allochtones. Et donc, il parle de travailler avec des compagnies de toutes sortes, privées, publiques, des organismes, des organisations géantes, toutes petites, tu sais, donc il travaille avec toutes sortes de personnes partout au Canada, surtout depuis la sortie du livre il y a 8 ans. Et donc, ce livre-là, le but était vraiment de rendre accessible cette information-là. Il dit lui-même dans le livre, j'aurais pu passer au travers de toute la loi sur les Indiens, mais il dit lui-même, mais personne ne m'aurait lu parce que ça aurait été un trop gros ouvrage à lire. Et il s'est dit, je vais juste m'attarder sur 21 aspects qui sont parmi les plus importants. Il y en a qu'on connaît un peu, il y en a qu'on connaît très peu, mais qui ont d'immenses répercussions dans la vie de tous les jours et même sur la perception des allochtones, sur les peuples autochtones. Donc, ça, je trouvais, en ce sens-là, ce livre-là réussit très bien sa volonté, son devoir de se dire, je vais pointer les choses les plus importantes et les plus efficaces. Comme ça, je peux contribuer, mais Bob Joseph dit, je peux contribuer à la réconciliation, mais en la remettant un petit peu plus dans notre conception de la chose. Dans les dernières années, on parlait beaucoup de réconciliation, etc., mais ça a été repris par les politiciens, par la classe politique, et des fois par des institutions, mais en fait, il faut continuer à parler de la réconciliation du point de vue des premiers peuples. Et donc, quand on parle du point de vue des premiers peuples, on parle de c'est quoi les principes fondamentaux, par exemple, traditionnels de la réparation, de la justice, etc., etc. Ben, de notre point de vue, c'est de dire, mais il faut qu'on parle, mais il faut que nous, on ait le temps de dire tout ce qu'on a vécu. Et à ce moment-là, ce livre-là agit très bien en ce sens-là.
Natacha Canapé-Fontaine, merci tellement d'être venue nous parler de cet enjeu qui est tellement important. Votre travail est très, justement, important là, dans le cadre de ces discussions qu'on doit laisser ouvertes pour la suite. Merci, je te souhaite une très belle journée. C'était très enrichissant comme discussion.
Merci beaucoup. Merci encore pour la discussion, pour l'invitation. Puis je suis très heureuse d'être passée à votre média. Merci.
Merci. Bye-bye. Bonne journée.
Au revoir.